Chers amis, c'est le moment pour nous de nous pencher sur un passage de la parole de Dieu. Nous faisons cela tous les dimanches et vous le faites aussi à la maison. Mais la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous montrer ce que Dieu veut. Et prions que nous prenions au sérieux cette parole, que nous la mettions en pratique, que nous prions le Seigneur de nous aider à mettre en pratique cette parole. Parce que nous l'entendons, et puis nous pouvons l'oublier tout de suite après, repartir dans la vie, comme si de rien n'était, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Et donc ce matin, nous allons nous pencher sur deux textes qui mettent en relief deux ressources fondamentales pour la foi du croyant. Deux ressources fondamentales pour la foi du disciple qui désire vivement ressembler à son maître et le suivre jusqu'au bout. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 à partir du verset 38 jusqu'au verset 42 et ensuite nous prendrons Luc chapitre 11. Tout d'abord donc Luc chapitre 10 verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi trois pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Voilà, nous considérons le premier passage, Luc chapitre 10, versets 38 à 42, pour voir la première ressource fondamentale pour la foi du croyant, la première ressource pour la foi de tout disciple qui veut ressembler à son maître et le suivre jusqu'au bout. Cette première ressource, vous l'avez peut-être discernée, c'est la parole de Dieu. Alors Luc, chapitre 9, 51 jusqu'à 19, 27, nous parle du déplacement de Jésus vers Jérusalem. Et pendant ce temps, la priorité de Jésus, priorité absolue, ce ne sera pas de faire des miracles, mais d'enseigner ses disciples. Ils doivent pouvoir prendre une distance par rapport à tout ce qui se fait à leur époque, par rapport à la sagesse juive de leur époque. Et lorsque Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Jésus, c'est le Verbe incarné. Donc son enseignement est pertinent, puissant et capable de changer une vie. Nous devons faire attention à ce que Jésus dit dans ce passage. C'est peut-être, donc, nous lisons au verset 38, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. » Cette ville, c'était Béthanie et Marthe. C'est Marthe, Marie et Lazare, c'est la même famille. Mais c'est peut-être la première fois que Jésus rencontre Marthe parce qu'il est dit « Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. » Marthe se plaît à recevoir le Seigneur dans sa maison. Et donc, que nous montre la suite du récit? Eh bien, la première chose que le récit nous montre, au verset 39, c'est que Marie est attentive aux pieds du Seigneur. Elle nous a dit, au verset 39, « Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. » Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe est nommée la première, mais Marie, c'est le personnage central de l'histoire. C'est son exemple que le croyant doit suivre. C'est vers Marie que le Seigneur veut tourner nos regards et nos cœurs. Pourquoi ? Parce que Marie adopte l'attitude du vrai croyant. La parole nous dit que celui qui vient à Christ entend la parole et la met en pratique. On peut prendre aussi Luc chapitre 8, verset 15, pour voir quelques versets. Luc chapitre 8, verset 15, c'est cette parole qui est semée dans quatre terrains. Et au verset 15, la parole tombe dans le bon terrain. Et il nous est dit... La semence qui a été semée par le semeur, la parole qui a été semée par le Seigneur, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Les autres ont entendu la parole, mais n'ont pas tenu compte de cette parole. Leur cœur n'était pas prêt, ils étaient intéressés par d'autres choses, si bien que cette parole n'a pas porté de fruit. Sur les quatre terrains, c'est seulement ce quatrième terrain qui a porté du fruit parce que ce sont des gens qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, qui l'ont retenu, qui n'ont pas oublié, et ils ont porté du fruit avec persévérance. On peut lire aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Gardez un doigt dans Luc. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Voilà. Marie a compris que la plus grande priorité pour un croyant, c'est d'écouter de la parole de Dieu, c'est de se nourrir de cette parole, de se laisser enseigner par elle. Une version nous dit que Marie n'était pas assise au début, qu'elle a aidé sa sœur au début, et puis s'étant assise après, elle s'est assise pour écouter la parole de Dieu. Alors, le récit nous montre que Marie est attentive aux pieds du Seigneur et elle se laisse enseigner par cette parole. Qu'en est-il de Marthe ? Les versets 10 à 42, nous voyons que Marthe est dispersée. Le Seigneur dit, dans Luc chapitre 10, verset 40, « Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marthe a perdu de vue ce qui était important. Il nous a dit que Marthe est occupée, littéralement, elle est détournée à divers soins domestiques, par un service abondant. Peut-être qu'elle veut faire trop bien, elle veut en mettre plein la vue, elle en fait trop. Et à un moment, elle est exaspérée et elle dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Marthe a laissé les divers préparatifs, l'a détournée de la priorité qui consistait à écouter le Seigneur. Recevoir un autre, c'était quelque chose d'important en Israël. Le Seigneur ne dit pas que c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose quand ça prend le dessus de tout. Quand ça vous saisit, vous ne pensez qu'à ça, alors que le Seigneur, le prince de la vie est là pour distiller la parole de vie et vous êtes occupé plus qu'il n'en faut par des activités. Et en quelque sorte, Marthe inversait les priorités. Elle s'agitait dans tous les sens, ses priorités étant mal placées, elle a fini par perdre la joie de servir. Elle ne servait plus avec un cœur qui plaisait au Seigneur. Elle s'est irritée à la fin, elle s'est mise même à accuser le Seigneur et même à lui dicter ce qu'il devait faire. Alors Marthe est en train de s'inquiéter pour le pain quotidien, pour le pain qui nourrit le corps, alors que l'attention de Marie se porte sur le pain de vie qui nourrit l'âme. Le Seigneur qui donne l'eau, si vous avez cette eau-là, vous avez la vie éternelle. Eh bien, Marie porte les regards sur le Seigneur, le pain de vie, tandis que Marthe est occupée à divers soins domestiques. Elle est détournée, elle est submergée par tout ça. Marthe est tellement préoccupée par les choses matérielles qu'elle oublie qu'une seule chose est nécessaire, écouter la parole du Seigneur. Je suis sûr que si nous étions là, nous dirions, ah oui, c'est Marthe qui fait tout le boulot, Marie en train de se prélasser. On aurait accusé Marie comme Marthe, mais Dieu voit les cœurs, mes amis. Dieu voit les cœurs, nous faisons les choses. Les hommes peuvent dire, ouah, mais Dieu voit les cœurs. Et vous voyez, le service est devenu pour Marthe, ça l'a aigri, il n'y avait plus de joie. Elle s'est mise à accuser sa sœur, elle s'est mise à accuser le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Mais dis-lui de se bouger là, enfin. Eh bien, heureusement que le Seigneur était là pour défendre Marie. Et il n'a pas réprimandé Marie comme sa sœur Marthe le demandait. Au contraire, il a approuvé le choix de Marie. Et au contraire, il a dit à Marthe, il a repris Marthe, lui disant, Marthe, Marthe, remarque deux fois, parce que le Seigneur aimait Marthe, Lazare et Marie, il les aimait, mais il a repris Marthe. Et pour, rappelez-vous, Dieu veut enseigner ses disciples sur les choses essentielles. Marthe, Marthe, première chose, tu t'inquiètes, tu ne me sers plus, tu es en train de t'inquiéter. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Trop de choses, tu les bonnes choses. Et une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôté. Marie a choisi ce qu'il y a de meilleur et ça ne lui sera point ôté. Trop souvent, frères et sœurs, les chrétiens laissent leur vie être dirigée par ce qui n'est pas fondamental. Ça peut être la fidélité au travail, à la maison, à l'église, tout ça à sa place. Mais à des moments, ça nous submerge et ça remplace la place de l'essentiel. Ça ne peut pas remplacer la fidélité à la vérité divine. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le service pour Jésus ne doit pas être mal orienté, au point qu'on n'ait plus le temps de se mettre à l'écoute du Maître quand il est là. Il y a un temps pour tout. Et vous voyez, ça peut arriver, même aux meilleurs chrétiens, être embarqué par un service qu'il en fait trop, et le cœur n'y est plus. Il se plaint des autres, il se plaint de tout, c'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'il n'est plus, le Seigneur n'est plus au centre. C'est lui, c'est moi, c'est mon activité, c'est mes dons, c'est tout cela. On en fait, au point de ne pas s'arrêter, dire non, stop, il y a un moment pour toute chose. Et Dieu veut qu'on s'arrête. Dieu veut qu'on considère ce qui est essentiel, lui au centre. pour que l'activité lui soit agréable. Donc cette première, ce premier passage nous montre Marie assise aux pieds du Seigneur, et ça nous montre la valeur de l'importance de la parole reçue de Jésus lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Le deuxième passage met en relief une deuxième ressource fondamentale pour la foi du croyant, pour la foi du disciple qui veut ressembler à son maître, et c'est la prière. Ça commence comme ça, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Le but de Luc dans l'Évangile, c'est de présenter Jésus comme le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme vit toujours dans la dépendance de son Père. Ce n'est pas quelqu'un qui est indépendant. Et là, on voit Jésus qui prie un jour en un certain lieu. Est-ce que c'était exceptionnel? Est-ce que c'est arrivé une fois? Il a fait une fois et puis bon, les autres fois, il vivait sa vie, voilà. Il était le Fils de Dieu, il aurait pu s'en passer. Comme l'apôtre Paul, il aurait pu se passer de la prière, comme tant d'autres. Mais la prière était au centre de leur vie. Jésus priait à tous les moments importants de sa vie. Il a prié lors de son baptême, si vous voulez tourner les pages, dans Luc chapitre 3, 21. Il a prié au moment de choisir ses disciples. On peut lire Luc chapitre 6, versets 12 à 13. On a, voilà, Luc chapitre 6, on tourne juste les pages. Il nous a dit, en ce temps-là, Luc chapitre 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Avant des choses importantes, il va choisir 12 hommes. Il ne va pas nécessairement prendre des gens qui ont fait de grandes études. Mais il va choisir des gens selon son cœur. Il va prier l'Éternel toute une nuit. Et il va pouvoir choisir ses disciples comme il faut. On voit aussi que Jésus priait souvent seul dans Luc chapitre 5, verset 16. Il priait aussi entouré de certaines personnes, Luc chapitre 9, verset 18. Et Jésus s'est rendu sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques pour prier. On peut lire aussi Luc chapitre 9, voilà, verset 28 avec 9. Donc Luc chapitre 9, verset 28, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui, Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Des choses se passent quand les hommes prient. Des choses se passaient quand le Seigneur priait. C'était un homme qui dépendait de son Dieu. Il priait. Il a prié aussi dans le jardin de Gethsémané. Il a même invité les mêmes à venir prier avec lui. Et ils se sont endormis. Et il les a trouvés endormis. Il n'aura pas dit, vous étiez fatigués, c'est bien que vous dormiez. Et il les a repris. Il a dit, mais vous ne pouvez même pas prier une heure avec moi. Vous êtes endormis. Et rappelez-vous, tous les disciples disaient, oh Seigneur, si tu vas à la croix, nous te suivrons à la mort. Mais quand ça a été l'heure de soutenir le Seigneur, quand on est venu le chercher, eh bien tout le monde a fui. Même Pierre qui disait, moi, non, les autres, ils vont te quitter, mais moi, je vais suivre. Et qu'est-ce que le Seigneur leur a dit dans cette situation? On peut lire ça dans Luc. Hein. Luc chapitre 22, on n'a qu'à tourner les pages, dans Matthieu aussi. Hein. Alors, Luc chapitre 22, verset 40. « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, donc c'est le jardin Gethsémané, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qui trouva endormis de tristesse et leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et Matthieu ajoute, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur dit à ses disciples de prier. Il ne dit pas de dormir, il dit, levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et justement, on va le voir prier pour Pierre, juste un peu avant, Luc chapitre 22, verset 31, juste un peu avant le texte que nous avons lu. Luc 22, 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Voilà, le Seigneur n'a pas pris du temps pour sermonner Pierre, pour lui expliquer les choses. Il a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et la prière du Seigneur a été efficace. Et même sur la croix, on voit le Seigneur prier. Alors, un disciple, ça suit son maître, n'est-ce pas? Si Jésus priait autant, il dit, mais et le disciple, il a vu que la vie de prière de Jésus, ce n'était pas comme la vie des chefs religieux qui priaient pour se faire voir, qui répétaient de vaines paroles, mais ce n'était pas profond, ça ne menait à rien. Mais la vie de prière de Jésus était autre chose. Il enseignait autrement, il priait autrement, il échangeait autrement. Alors, le disciple a été impressionné par cela. Mais est-ce qu'un disciple n'est pas impressionné par ce que son maître fait? Est-ce qu'il n'a pas envie aussi d'être comme le maître, sinon il n'est pas disciple? Si vous êtes disciple de quelqu'un, vous n'avez pas envie de dire ce qu'il fait, ce n'est pas ça le but. Eh bien, ce disciple, il a eu un désir de quelque chose de sérieux, quelque chose qui a une valeur. Il a vu que le maître accordait tellement de valeur à la prière, il a vu que cette prière était tellement efficace dans la vie du Seigneur, dans ses relations avec les autres, dans son ministère, qu'il a dit, non, ça c'est important, ce n'est pas comme les chefs religieux, c'est différent, c'est une autre prière. Et là, il a dit au Seigneur, eh bien, enseigne-nous à prier. Et puis Jean aussi avait des disciples. Et Jean, qui était le précurseur, qui a annoncé la venue de Jésus, a aussi enseigné à ses disciples à prier. Les gens qui avaient une connaissance authentique du Seigneur faisaient de la prière la colonne vertébrale de leur vie et l'enseignaient aux disciples. Et certainement, Jean-Baptiste, qui connaissait le Seigneur, a enseigné à ses disciples de prier de la bonne façon qui plaît au Seigneur, pas comme faisaient les chefs religieux de l'époque, mais comme les faisaient les vrais saints de l'Ancien Testament. Alors, est-ce que vous percevez l'importance de la prière, frères et sœurs? Est-ce que vous la percevez dans ces textes? Voilà Jean qui enseigne à ses disciples à prier. Et les disciples du Seigneur qui voient les disciples de Jean prier, qui disent, mais enseigne-nous à prier comme Jean a aussi enseigné à ses disciples. Les disciples de Jésus qui voient aussi Jésus prier, qui disent, mais ça c'est important. Et vous voyez, est-ce que nous sommes des disciples qui avons envie de prier comme notre maître Jésus-Christ, s'il est notre maître? Si notre Seigneur, si nous disons Seigneur, eh bien, la prière doit peut-être nous intéresser, parce que Dieu, le Seigneur Jésus, veut nous rendre semblables à lui. Et l'esprit qu'il nous a donné, c'est un esprit de supplication et de prière. Donc ce n'est pas quelque chose à mettre de côté. Voilà, les premiers disciples ont fait de cette prière-là une importance tellement, c'était tellement essentiel pour eux, apprends-nous à prier. Et est-ce que ça s'est arrêté là? Est-ce que, eh bien, quand Jésus est parti, il est parti, bon, maintenant il n'est plus là, on va faire ce qu'on veut, on va faire des activités, et puis voilà. Et non, on voit que dans les actes, la prière comme étant quelque chose d'important, ça n'a pas arrêté, mais ça a continué. Et on peut lire, on peut regarder rapidement Actes, on ne va pas tout lire, Actes chapitre 2, le Seigneur, il a été crucifié, il est ressuscité, il apparaît aux disciples plusieurs fois, il les enseigne sur toutes les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et Actes chapitre 1 plutôt, excusez-moi, Actes chapitre 1, qu'est-ce que nous lisons au verset 14? Actes chapitre 1, verset 14, et il va leur dire, mais attendez de recevoir l'Esprit pour que vous soyez des serviteurs efficaces pour porter la bonne nouvelle un peu partout. Et Actes chapitre 1, verset 14, nous lisons tous d'un commun accord, ils étaient d'accord sur ça, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ça, dans certaines religions, c'est quand on est âgé et que la vie, bon, on a vécu, on a bien vécu, on voit le tombeau arriver, on va maintenant commencer à prier, on va commencer à s'intéresser aux choses de l'éternité. Les disciples, tous, femmes, hommes, jeunes chrétiens, tous d'un commun accord, persévérer. Que ça veut dire persévérer? C'est qu'on le fait tout le temps, on ne lâche pas l'affaire, comme on dit aujourd'hui. Il persévérait dans la prière, avec les femmes et Marie. Mais il n'y avait pas de homme d'un côté, femme d'un côté, jeune de côté. Vous êtes chrétien, vous êtes disciple du Seigneur, tout le monde prie. C'est ça que la parole nous dit. Et plus tard aussi, quand le groupe s'est étoffé, après la prédication de Pierre, on voit aussi ça, dans Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et qu'est-ce qui se faisait, c'était ces quatre choses-là? Et donc, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, comme ça, c'était le centre de leur vie, on dit, 43, la crainte s'emparait de chacun. Quand on est dans cette situation où la parole de Dieu a une importance pour nous, la communion fraternelle est aussi une importance, la fraction du pain, comme nous l'avons fait ici, et les prières, la crainte du Seigneur, c'est-à-dire ce respect que nous avons du Seigneur, ça s'empare de nous. Nous ne produisons pas une crainte artificielle, ça s'empare de nous parce que nous faisons de Dieu le centre de notre vie. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ayant fait de ces quatre choses une importance capitale, le Seigneur agissait parmi eux. Sans qu'ils aient à se poser de questions, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Seigneur agissait, puisque c'est lui qui ajoute chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Aussi dans acte 1, on savait que les disciples disputaient qui est le premier, qui va avoir la première place. Ça ne s'est pas fait comme ça. Pierre s'est levé, les choses se sont déroulées d'une façon naturelle parce que hommes et femmes, tous les disciples priaient. Et on voit cette importance de la prière dans tout le livre des actes. Corneille, il priait souvent et sa prière a été entendue par Dieu. Et Pierre qui montait prier aussi, Dieu lui a parlé avec ce drap qui descend. Voilà. Et c'est comme ça que l'œuvre de Dieu s'accomplit, par la prière. Jésus nous le montre et les actes des apôtres nous le montrent. Mais revenons à notre texte. Donc, suite à la demande des disciples, Jésus va donner aux disciples un modèle de prière, versets 2 à 4, Luc chapitre 11, versets 2 à 4. Donc, quand vous priez, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Jésus donne un modèle de prière. Il ne donne pas une prière qu'il faut réciter ou chanter. D'ailleurs, vous allez le Nouveau Testament, vous n'avez pas trouvé de gens qui prient cette prière-là comme ça, machinalement, qui répètent ces mots. Un modèle, c'est quelque chose pour vous aider à... C'est un exemple, c'est les grandes lignes de ce que vous devez prier. Quand on dit à Moïse de faire selon le modèle qui a été vu dans le ciel, le tabernacle, ça le dirigeait. Et un pasteur, justement, un pasteur puritain, a écrit justement, il a signalé deux avantages d'un modèle. Un modèle, il dit, nous évite de nous égarer. Quand vous avez un modèle, il est difficile de se tromper, c'est le premier avantage. Et un modèle nous permet d'obtenir les grâces demandées. En effet, 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15 dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Il est certain que si nous prions selon la volonté de Dieu, nous prions conformément au modèle qu'il nous a laissé. » Donc Jésus laisse à ses disciples ce modèle pour qu'ils puissent avoir une colonne vertébrale. Voilà comment il faut prier. D'ailleurs, il l'a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Voilà comment il faut prier. Et ce n'était pas une prière à répéter machinalement, puisque Jésus lui-même avait mis en garde ses disciples. Matthieu chapitre 6, verset 7. Il leur disait, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc voilà, Jésus leur donne un modèle de prière. Que trouvons-nous dans ce modèle de prière? Ça commence par quoi? Un mot riche de signification, Père. Dieu, Jésus, a là des disciples. Alors, les disciples peuvent s'adresser à Dieu comme le Père, parce que vous savez que nous sommes pécheurs tous par nature, et nous méritons la colère de Dieu. Et le sacrifice de Christ nous réconcilie avec Dieu pour que nous soyons ses enfants, que nous puissions l'appeler Père. Sinon, avant ça, nous ne pouvons pas appeler Dieu Père. Il nous faut d'abord être réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Christ. Et là, c'était les disciples qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ pour leur salut, donc ils pouvaient appeler Dieu Père. Et c'est encourageant. Le mot Père rappelle aux croyants cette relation de confiance, cette relation d'amour qui les lie à Dieu. Le mot Dieu est notre Père et nous sommes donc les fils ou les filles. Et le mot Père nous rappelle aussi... Le mot Père nous rappelle aussi tout ce que Dieu a mis en œuvre pour nous réconcilier avec lui-même. Et quand on dit Père, eh bien, la grâce de Dieu brille dans ce mot Père. Nous pouvons avoir confiance. Quand on prie avec confiance. Et donc, ça commence par Père. Et ça nous introduit dans quelque chose de grandiose. Et qu'est-ce qu'il est dit après? On voit que dans cette prière, il y a cinq. Dans cette prière, il y a cinq requêtes. Les deux premières requêtes concernent la gloire de Dieu. Les trois suivantes concernent les besoins du croyant. Alors, les deux premières requêtes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça concerne Dieu. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Dieu soit respecté, que Dieu soit respecté, exalté et adoré. Que ton règne vienne. On sait que le péché ne va pas régner éternellement, mais que Dieu va écraser un jour toutes sortes de mal et que Christ va régner sur la terre. Après les deux requêtes qui concernent la gloire de Dieu, viennent trois requêtes qui concernent nos besoins quotidiens. Verset 3, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le disciple est conscient que tout don parfait, toute bonne chose vient de Dieu. Et il est dépendant de Dieu pour cela. Il sait que Dieu pourvoit ses besoins. Il peut demander à Dieu le pain quotidien. Ça ne vient pas de ses forces. Ça vient de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il n'hésite pas à dire, chaque jour, Seigneur, donne-moi la nourriture pour le corps. Il y a aussi, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Quand on dit pardonne-nous nos péchés, la foi est en œuvre. Là, on sait que la personne qui pardonne les péchés, c'est Dieu. Et puisque Dieu nous pardonne, on peut aussi pardonner les autres quand ils nous ont offensés. Et enfin, la troisième requête, qui concerne l'homme et ne nous induit pas en tentation. Et par cette requête, l'Éternel, enfin le croyant, le disciple, demande à Dieu d'être délivré des situations qui pourraient le faire pécher. Parce qu'il sait qu'il est faible. Il demande à Dieu, préserve-moi dans ces situations pour que je ne puisse pas pécher. Alors, qu'apprenons-nous de ce modèle de prière? Que pouvons-nous tirer rapidement de ce modèle de prière? Eh bien, on voit que... La prière commence par Dieu et ensuite par nous. Ça descend de Dieu et ça vient vers nous. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et Matthieu ajoute que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous, quand nous prions, nous venons avec une grande liste de prières, comme un supermarché, Seigneur, donne-moi ceci, bénis un tel, soit avec un tel, soit ceci, là, là, là. Et puis, la question de Père, de relation d'un Dieu qui prend soin de nous, ça disparaît. On ne voit pas notre Dieu grand et eh bien, finalement, on n'a pas envie de prier. On a vite... Notre prière s'arrête vite. Si c'est les besoins matériels, ça s'arrête vite. Mais cette prière modèle qui nous montre comment prier nous invite à regarder vers le Seigneur, à chercher d'abord sa face avant sa main. Nous cherchons la main du Seigneur pour qu'il puisse nous donner. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Donne à un tel. Et puis après, des fois, nous ne remercions même pas le Seigneur. Mais la prière modèle nous invite à regarder la face du Seigneur. Et si nous avons d'abord sa face, eh bien, nous verrons aussi sa main agir. Et dans son livre « Transformant nos prières », Daniel Anderson écrit « Si nous ne faisons que chercher la main de Dieu, nous risquons de négliger sa face. Cependant, si nous cherchons sa face, il ouvrira sa main avec joie afin de satisfaire les besoins les plus profonds de notre cœur. La gloire de Dieu d'abord, ensuite nos besoins. Fais de l'Éternel tes délices et te l'honnera. » Ce que ton cœur désire. Et quel est notre plus grand besoin? C'est de connaître Dieu. Notre plus grande richesse, c'est Dieu lui-même. Et si vous avez Dieu, vous avez tout le reste. Et c'est là où il nous faut apprendre à être patient, confiant. Dieu nous a fait grâce déjà en Jésus-Christ. Nous devons continuer à chercher sa face, comme les saints faisaient. Ils cherchaient la face de Dieu. Moïse parlait face à face avec Dieu. Jacob, Abraham et tous les autres, ils priaient Dieu dans sa grandeur. Les psaumes doivent nous aider à cela, nous montrer la grandeur de Dieu, tout ce qu'il a fait dans le passé. C'est là où nous sommes oublieux. Et nous doutons, mais est-ce qu'il va vraiment faire, ou nous faisons nos calculs sages, et nous disons, ah bon, ça. Mais Dieu n'est plus là, nous sommes simplement en train de, avec nos listes de prières. Donc après avoir donné à ses disciples un modèle de prière, Jésus va utiliser une parabole pour les encourager à persévérer dans la prière, je dirais peut-être même deux paraboles. Alors la première parabole concerne l'importunité, la persévérance dans la prière, les versets 5 à 8. Il leur dit encore, nous sommes toujours dans la prière, il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Remarquez comment le Seigneur a introduit les disciples dans cette parabole. Il leur dit, si l'un de vous, ce n'est pas une histoire qui est très loin d'eux, il dit, si l'un de vous, un de mes disciples. Et puis regardez aussi tous les obstacles qui peuvent être là. Eh bien, il y a un visiteur qui vient dans la nuit et vous n'avez rien à manger, à lui donner. En Israël, l'hospitalité est quelque chose de très important. Dans le monde antique, c'était très important. On voit par exemple Lot qui reçoit les anges chez lui et qui les invite à dormir chez lui et ils vont repartir demain. On voit Abraham qui voit 3 hommes arriver, qui les invite à manger avec lui. L'hospitalité est quelque chose de très important en Israël. Donc les gens aussi voyageaient plutôt de nuit pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Et ils arrivaient tard chez les gens. Et comme l'hospitalité est un devoir impératif, quand vous alliez chez quelqu'un, il avait le devoir de vous recevoir. Remarquez aussi qu'il s'agit d'un ami. Il y a tout ça des amis. Il n'y a pas d'ennemi dans cette parabole. Il dit, si un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car l'un de mes amis est arrivé de voyage, donc un visiteur qui vient, qui est un ami, vous n'avez rien à lui donner à manger, et donc il va taper chez le voisin, un autre ami chez le voisin. Mais il est minuit, il dit, mais celui-là, mais pourquoi il me dérange? Il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas sa femme qui accouche, il n'est pas blessé, il n'y a pas d'effraction chez lui, il venait déranger, pourquoi 3 pains? Et voilà, à cette époque-là, tout le monde dormait sur une grande natte, les enfants, les parents, et les portes aussi étaient en bois et en fer, et ouvrir la porte aurait fait du bruit, ça réveillait les enfants. L'ami qui était chez lui, devait naviguer entre tout le monde, ça aurait aussi dérangé, ça aurait pu réveiller. Alors, il dit, non, tu m'importunes. Il dit, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, ça va faire du oui. Mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Eh bien, Jésus tout de suite ajoute, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Voilà. Là où l'amitié, et à cette époque-là aussi, ce n'est pas comme chez nous, hein. Aujourd'hui, le soir, il y a la télé, Internet et tout ça, il n'y a pas tout ça, tout le monde dormait très tôt, parce qu'on devait se lever très tôt. Alors, dans cette parabole, le Seigneur nous dit... Le Seigneur nous dit au verset 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et il donnerait tout ce dont il a besoin. Là où l'amitié a échoué, il a dit, même si tu es mon ami, non, tu me déranges, je ne vais pas me lever pour donner les pains. L'amitié, ça n'a pas fonctionné là, mais qu'est-ce qui a fonctionné? L'importunité, la persévérance. Il s'est dit, oulala, il va me casser les oreilles, il va parler, tout le monde va être réveillé. Dans le quartier, dans la maison, je me lève, je lui donne les pains. Voilà, là où l'amitié a échoué, l'importunité, la persévérance, l'audace, la témérité a réussi à triompher. Le Seigneur nous encourage ainsi à persévérer dans la prière. Donc cette première parabole est un encouragement à prier avec persévérance. La deuxième parabole, où c'est une application un peu de la première, nous montre que le Père Céleste va répondre à ses enfants. Il va leur donner de bonnes choses. C'est une sorte d'application de cette parabole. Et moi, je vous dis, quand on entend ça, et moi je vous dis, on peut le remplacer par « ainsi par l'Éternel ». Jésus dit « attention, écoutez attentivement, c'est important ». Je m'engage, et vous savez, la parole de Jésus, c'est la parole de Dieu, verset donc 9. Et moi, je vous dis, demandez, et on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, le Seigneur leur dit, mais persévérez dans cette demande, dans cette prière. Il dit, premièrement, demandez, et l'on vous donnera. Continuez de demander avec persévérance, et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Vous remarquez qu'il y a, ça monte de plus en plus. La première chose, c'est demander. Je demande. La deuxième chose, c'est chercher, voilà. Et la troisième, eh bien, frapper. Comme l'ami a frappé chez son voisin, voilà, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque, et pour bien enfoncer le clou, au verset 10, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trop, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ce n'est pas moi qui parle, hein. C'est le Seigneur qui dit, et moi je vous dis. Moi je ne vous ai pas dit ça, c'est le Seigneur qui l'a dit. Donc s'il le dit, vous pouvez le croire. Moi je l'aurais dit, vous n'étiez pas obligé de me croire. Mais si le Seigneur a dit, et moi je vous dis, demandez. Remarquez le temps aussi, c'est un temps impératif. Ce n'est pas de dire, ah bon, si ça ne te dit rien, ne demande pas. Hein. C'est la prière, ce n'est pas important. Si tu trouves que chercher, ce n'est pas ton truc, ne cherche pas. Si frapper, ça ne t'intéresse pas, fais comme tu veux. Non, le Seigneur, c'est une exhortation. C'est un ordre, c'est un impératif. Il est le Seigneur de la vie, il prie fréquemment, il ne veut pas voir ses disciples être différents de lui. Donc, il les exhorte, il les encourage, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et voilà encore quelque chose qui nous encourage. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Les pains étaient plats et ça pouvait ressembler à des calais. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, dans cette prière, dans cette deuxième parabole, le Seigneur nous dit, quel est parmi vous le Père? Il y a parmi nous des mamans et des papas ici. Nous avons des enfants. Nous ne sommes pas parfaits, mais quand ils nous demandent quelque chose, on veut leur bien. Et on leur donne ce qui est bien pour eux. Alors, s'ils nous demandent de bonnes choses, on n'a pas donné de mauvaises choses. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? On ne va pas tromper nos enfants en leur donnant quelque chose qui peut leur faire du mal. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson, quelque chose de dangereux qui risque de faire souffrir? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion, quelque chose de plus grave? Eh bien, par là, et donc, si donc méchant comme vous l'êtes, nous sommes imparfaits en tant que père et mère, et pourtant nous voulons le bien de nos enfants. Quand ils nous demandent des choses, nous leur donnons ce qui est bien pour eux. Nous répondons à leurs demandes. Et donc, le Seigneur conclut, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Et Matthieu dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Les disciples, à ce moment, n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit comme ils le seraient à la Pentecôte. Mais remarquez que le Saint-Esprit, il s'agit plutôt de la puissance du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit en nous plutôt que cette personne. Parce que si vous êtes croyant, vous avez déjà le Saint-Esprit. Vous n'avez pas prié pour demander le Saint-Esprit si vous êtes enfant de Dieu. Vous l'avez reçu lors de votre conversion. Il vous scelle, il fait de vous un enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui vous donne cette nouvelle nature. C'est par l'Esprit que vous naissez de nouveau. Donc on ne va pas prier Dieu, donne-moi le Saint-Esprit alors que nous l'avons déjà si nous sommes croyants. Voilà. De même, on ne va pas prier Dieu, Seigneur, sois avec moi, puisqu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a des fois, nous prions d'une certaine façon qui n'est pas ce que Dieu veut. Nous pouvons demander, Seigneur, aide-moi à être conscient davantage de ta présence. Ou quand nous prions pour les autres, aide telle personne à être conscient davantage de ta présence. Et nous n'avons pas demandé, Seigneur, sois avec un tel. C'était comme si nous disions, il n'était pas avec nous. Mais il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà, donc nous pouvons prier le Seigneur de nous fortifier. Et si nous demandons, alors si le Père qui est méchant, qui est imparfait, donne de bonnes choses à ses enfants, eh bien, le Seigneur donnera de bonnes choses aussi à ses enfants. Et remarquez, on pourrait dire, ah, super, je vais demander à, puisqu'on peut, Dieu va me donner de bonnes choses, je vais demander la Rolls-Royce, je vais demander la voiture, je vais demander le voyage à Dubaï. Mais remarquez que ça sort du cadre de la parabole. Dieu a déjà fixé le cadre de la prière qui plaît à Dieu, c'est les versets 2 à 4. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La gloire de Dieu d'abord, Dieu au centre, les choses qui plaisent à Dieu. Et vous savez, mes amis, je crois que ce qui nous paralyse dans la prière, c'est que nous sommes tellement attachés aux choses de la terre. Nous sommes tellement attachés aux biens matériels. Nous laissons tellement imprégnés, d'une façon subtile et inconsciente, de la vision du monde, par le biais de la télé, par Internet, par les médias. Et cette vision du monde érode progressivement notre vision spirituelle et donc notre vie de prière. Faites le test, examinez les sujets de prière qui reviennent souvent. On prie pour la santé, on prie pour tel problème. On ne cherche pas plus loin pour cette vie éternelle. Les choses excellentes que Dieu a pour nous. Quand il dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, ça monte la prière d'un cran. On n'est plus toujours à demander, donne-moi ci, donne-moi ça pour vivre là, dans la terre. Et vous savez, quand vous demandez que ces choses-là, quand vous les avez, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez de prier. La vie est belle, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai à boire, à manger. On arrête de prier. Et même, la prière, ce n'est pas pour ça, pour la vie seulement d'aujourd'hui. C'est pour nous transformer à la ressemblance de Christ. Pour demander au Père, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et cette dépendance avec Dieu pour être ce disciple. Parce que c'est les disciples, c'est la prière du disciple. Et donc, l'apôtre Paul, qui était en prison, ne priait pas pour la libération. Il priait pour l'édification des disciples, pour qu'ils comprennent davantage la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, le plan de Dieu, pour qu'ils soient en fait ce que Dieu veut qu'ils soient et qu'ils fassent la volonté de Dieu. Ses yeux, les yeux de l'apôtre Paul, étaient tournés vers l'éternité et la gloire de Dieu. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et les yeux de Paul n'étaient pas tournés vers son bien-être, alors qu'il aurait pu demander tout le temps un peu de confort, un peu d'argent, une délivrance. Non, Paul priait pour les choses du royaume de Dieu. Il ne priait pas pour son confort personnel. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Les passages examinés ce matin donc, nous rappellent deux ressources fondamentales pour la foi du croyant, pour la foi de tout disciple qui veut ressembler à son maître. Nous avons vu tout d'abord avec le Marthe et Marie, l'importance de la parole. Et ensuite, nous voyons l'importance de la prière. Si j'ai une chose à dire, frères et sœurs, on a la vie physique, on a la vie éternelle, ne négligeons pas ces rendez-vous avec Dieu. Nous les avons personnellement, mais nous les avons aussi collectivement. Et souvent, comme Marie, nous sommes absorbés par une multitude d'activités qui sont souvent plus terrestres que spirituelles. Et nous, les rendez-vous avec Dieu, dire, ah non, ça, non, Dieu, bon, plus tard, hein, moi j'ai ça à faire. Ah, ce n'est pas ça que Dieu veut. Nous sommes les disciples du Seigneur. Il nous a choisis pour marcher avec lui, pour marcher à sa suite. Donc, c'est des choses importantes, fondamentales. Et pour terminer, on peut lire Luc chapitre 11, versets 27 à 28, tout à côté. Luc chapitre 11, versets 27 à 28, nous lisons, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Soyons de ceux, frères et sœurs, qui écoutent la parole de Dieu comme Marie et qui la gardent. Qu'elle ne parte pas de nos cœurs et qu'elle change nos priorités, qu'elle change nos habitudes. Et voilà, je vous laisse à la grâce de Dieu, et je vais prier, et on va se saluer après. Seigneur, tu as voulu enseigner tes disciples sur les choses essentielles, les choses qui durent, les choses qui ont de la valeur, et tu l'as fait de multiples façons, par de multiples paraboles, par de multiples situations dans la vie. Tu as montré l'importance de la parole, combien on a besoin de chercher ta volonté avant de se lancer dans les activités, chercher ta face, et tu vas nous conduire chacun sûrement, combien aussi nous avons besoin de prier. Et notre prière est alimentée par ta parole parce qu'elle nous rappelle ta grandeur, ta fidélité, ta bonté, les grandes œuvres que tu as faites pour nous. Elle nous aide à t'adorer et prendre pleinement confiance que si nous avons Dieu, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Aide chacun à prendre conscience de cela pour voir comment il peut ressembler aux disciples. Tu as laissé cet enseignement, tu as dit « moi je vous dis ». Peut-être que certains ici ne sont pas encore tes enfants et ne peuvent pas t'appeler Père. Je prie aussi que ta parole fasse le chemin dans leur cœur et qu'ils puissent réaliser qu'ils sont pécheurs et que Jésus-Christ les appelle à venir à lui pour trouver le repos, pour trouver la vie éternelle, pour trouver la communion avec Dieu et pouvoir apprécier davantage sa parole et pouvoir le prier comme un Père. Merci Seigneur parce que nous avons cette parole. Tu n'as pas permis qu'elle soit détruite. Merci parce que dans toute chose, tu veux notre bien. Donne-nous donc de prendre au sérieux ta parole et de la mettre en pratique. En ton nom, je te prie. Amen.